Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte à tirer des médias suivants. La presse et le devoir. Au programme, comment épargner 10 000 $ en un an. Discrimination et racisme systémique ou l'art de tourner en rond. Éveillé comme dans le temps. Bonne écoute.
Comment épargner 10 000 $ en un an? Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 26 février 2023 dans la presse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette infolettre n'a pas tendance à niaiser avec la rondelle. Ici, pas de liste d'idées pour épargner 8 $ lors de votre prochaine sortie au cinéma ou pour économiser 2 cents le litre sur l'essence. Je tiens pour acquis que vous pouvez trouver tout ça sur Internet. Non, quand on parle d'économiser, on parle de vraies sommes qui font une vraie différence dans la vraie vie, comme épargner 10 000 $ en un an. On a récemment appris que l'épargne des Québécois avait fondu de 37 % depuis l'an dernier. Cette rubrique monte donc au front et participe à l'effort collectif pour aider à renverser cette tendance à l'appauvrissement. Alors, c'est faisable? Ou bien ça vous semble être une montagne? Une somme de 10 000 $ en un an, ça fait 27,40 $ par jour. Voici quelques façons d'y arriver. Si certains points ne s'appliquent pas à vous, passez quelques minutes à fixer intensément votre dernier relevé de carte de crédit. Les idées vont jaillir, j'en suis convaincue. Abonnez-vous à votre bibliothèque. Vous payez déjà pour votre bibliothèque, autant en profiter. En plus d'une sélection de livres toujours mise à jour, on y trouve des livres audio, des jeux vidéo, des jeux de société, des DVD. Vous souvenez-vous des DVD? Et des milliers de livres et magazines en format électronique, offerts en ligne à tous les Québécois par l'entremise de Bibliothèques et Archives nationales du Québec, BANQ. De quoi réduire un peu l'utilisation d'Amazon. Économie, 50 $ par mois. Optimiser le cellulaire. J'ai payé 16 $ par mois en moyenne pour mon service cellulaire l'an dernier, taxes comprises. Comment? En prenant le forfait le moins cher chez Public Mobile. Surtout, j'ai déterminé à l'avance que je n'avais pas besoin de beaucoup de données parce que je télécharge presque tout ce qu'il me faut avec le Wi-Fi. Ça vous semble impossible? Pour une petite partie de la population, sans doute. Mais lorsque quelque chose de vital n'était même pas offert il y a 10 ans, mon détecteur de dépenses, sans doute pas si vital que ça, s'allume. Économie, 50 $ par mois. Pas de cheveux blancs, pas de restaurant. Quand je vais au resto ou dans un bar, je suis toujours surpris d'être entouré de gens dans la jeune vingtaine qui n'ont pas l'air d'être là pour célébrer un événement spécial, mais parce que le calendrier indique qu'on est jeudi, vendredi, samedi ou dimanche, pour le brunch. Si vous êtes jeune ou avez peu d'économies, vous avez certainement mieux à faire que de végéter pendant 2 heures, à vous faire gaver des calories les plus coûteuses de votre vie ou encore de passer votre soirée à aider le propriétaire d'un bar à envoyer ses enfants à l'école privée. Ma règle, pas de cheveux blancs, pas de restaurant, est volontairement extrême. On peut la transgresser quelques fois par année, bien sûr, mais de façon générale, on peut massivement diminuer ce poste de dépense. Les générations qui nous ont précédés allaient beaucoup moins au restaurant, et des études nous montrent que les gens n'étaient pas plus malheureux. Organiser des pique-niques entre amis dans un parc l'été, ou des soupers en groupe à la maison pour épargner les 2/3 de la facture, et davantage lorsqu'on tient compte du coût de l'alcool. Économie, 175 $ par mois. Désabonnez-vous de Disney+. Je n'ai rien contre ce service. Mais sur son lit de mort, personne ne se dit « J'aurais dû passer plus de temps à regarder Disney+. » Personne comme dans zéro. Économie, 14 $ par mois. Fini Amazon Prime. Acheté pour plus de 35 $ et le transport est gratuit de toute façon. Économie, 11 $50 par mois. Poursuivons avec « Comment épargner 10 000 $ en un an », un texte de Nicolas Bérubé paru le 26 février 2023 dans la presse. Optimiser la télé. Bonne nouvelle, personne n'a besoin de payer des centaines de dollars par année pour regarder le Canadien se rebâtir. De toute façon, les options de divertissement sont déjà surabondantes. Une antenne numérique à 30 $ permet de capter plusieurs chaînes. Et vous avez Netflix et YouTube. Il ne vous faudra qu'une connexion Internet haute vitesse, ce qui coûte plus ou moins 40 $ par mois avec Fizz ou e-box. Économie, 90 $ par mois. Marchez un peu. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre cela, mais marcher pendant 40 minutes pour se rendre à l'école, au travail, à l'épicerie ou à la bibliothèque n'est pas un exploit. C'est indispensable à l'équilibre mental et physique d'un être humain en santé âgé de 9 à 99 ans. Pour donner un ordre de grandeur, 40 minutes de marche permettent de couvrir la distance qui sépare l'Université de Montréal de la rue Saint-Denis à Montréal. En intégrant la marche à son quotidien, on fait de l'activité physique modérée sans s'en rendre compte et on réduit ses frais de déplacement. Si marcher vous ennuie, écoutez des balado-diffusion ou encore des livres audio. On peut facilement économiser un demi-plein d'essence par mois et plusieurs billets de transport en commun de cette façon. Économie, 40 $ par mois. Arrêtez d'acheter des vêtements. Vraiment, juste pour un an. Pour un reportage il y a quelques années, une collègue et moi avons porté des vêtements identiques au travail tous les jours pendant un mois. Personne n'a remarqué. Économie, 150 $ par mois. Café acheté à l'extérieur. Ce n'est pas pour rien que faire des coupes dans les lattés est devenu un cliché de finances personnelles. Pour la prochaine année, apportez un thermos avec vous. Économie, 3 $ par jour ou 90 $ par mois. Faites votre lunch. Pendant des années, j'achetais souvent un lunch le midi près du bureau. Ces 15-20 $ dépensés chaque fois ont disparu en fumée. J'ai oublié 99% de ces lunchs. Apportez un lunch et des collations simples, faites rapidement le soir, biscuits aux dattes, muffins aux bananes, etc., au bureau, en ski, au terrain de soccer, à l'aréna, bref, partout où vous aurez faim. Économie, 30 $ semaine ou 120 $ par mois. Profitez des rabais. Le sac de café que vous aimez est offert à prix réduit. Les gros blocs de fromage sont à moitié prix. Les sachets de pesto sont en solde. N'en achetez pas 2. Achetez-en 25. Tout ça se range ou se congèle. En prime, vous serez protégé contre le syndrome du frigo vide qui donne toujours envie de commander du restaurant. Économie, 10 $ par semaine ou 40 $ par mois. Total, 830 $50 par mois ou environ 10 000 $ par année. Cette liste peut être réajustée une fois que les 10 000 $ seront bien au chaud en banque, prêts à servir de fonds d'urgence ou à alimenter vos placements. Et si certaines dépenses vous manquent au bout d'un an, vous pourrez les reprendre avec la certitude que c'est une dépense essentielle pour vous. Ce n'est pas tout. Épargner 10 000 $ par année et, au bout de 10 ans, ce sont près de 148 000 $ qui se retrouveront dans votre compte de placement si vous obtenez 7 % de rendement sur vos actifs, soit un rendement inférieur à ce qu'un portefeuille équilibré a offert historiquement. Une personne qui investirait 10 000 $ par année entre l'âge de 20 et 30 ans et qui cesserait entièrement d'épargner par la suite, franchirait la barre du million de dollars en actifs à l'âge de 59 ans en moyenne. Et notez que ma liste reste en surface. Je n'ai pratiquement pas abordé les vrais postes de dépenses comme l'habitation ou le transport. Des milliers de dollars en économie par année sont souvent possibles à réaliser en les optimisant. Même après avoir mis en place ces habitudes, vous aurez un quotidien plus riche, diversifié et excitant que 100 % des générations qui ont vécu avant nous sur cette planète. En prime, vous vous enrichirez chaque jour et finirez l'année en meilleure posture que vous l'avez commencée. C'était « Comment épargner 10 000 $ en un an », un texte de Nicolas Bérubé, paru le 26 février 2023 dans La Presse.
Discrimination et racisme systémique ou l'art de tourner en rond. Un texte d'opinion de Pierre Lepage, paru le 20 décembre 2022 dans Le Devoir. L'auteur est anthropologue et auteur de « Mythes et réalités sur les peuples autochtones ». Le 3 décembre dernier, l'organisme Femmes autochtones du Québec tenait un grand rassemblement devant l'Assemblée nationale réclamant au gouvernement du Québec qu'il reconnaisse l'existence du racisme et de la discrimination systémique au Québec à l'égard des Autochtones et plus particulièrement des femmes autochtones. À cette occasion, l'organisme invitait la population à signer une pétition en ligne sur le site de l'Assemblée nationale afin d'appuyer cette démarche. Soulignons que cette manifestation faisait suite au dépôt d'un rapport de recherche troublant et bien documenté sur de nombreux cas de stérilisation imposée aux femmes des Premières Nations et Inuits au Québec. Avouons que l'interminable débat actuel sur l'existence ou non du racisme systémique au Québec a pris une tournure désolante. On tourne en rond. Or, la question n'est pas de savoir s'il s'agit d'une réalité qui existe vraiment, mais plutôt en quoi ces notions de discrimination systémique et de racisme systémique peuvent nous être utiles. Abordons dans un premier temps le concept de discrimination systémique. Il a été largement utilisé au Québec et ailleurs au Canada à partir des années 1980. Il n'a rien à voir avec ce que l'on pourrait considérer comme une discrimination systémique délibérée issue des plus hauts niveaux des organisations ou des institutions de notre société. Le concept juridique de discrimination systémique est utile précisément parce qu'au lieu de s'attarder aux auteurs des agissements et aux strictes relations interpersonnelles, on se concentre plutôt sur ce qui est à la source des inégalités au sein même des structures de notre société. C'est ainsi que, dans le jargon des droits de la personne, on distingue généralement trois formes de discrimination. Celle dite directe, la discrimination indirecte et la discrimination systémique. Ces concepts n'ont rien de nouveau. En ce qui concerne la discrimination systémique, les tribunaux l'ont définie de la façon suivante. Ellipse. Comme la somme d'effets d'exclusion disproportionnés qui résultent de l'effet conjugué d'attitudes empreintes de préjugés et de stéréotypes, souvent inconscients, et de pratiques généralement adoptées sans tenir compte des caractéristiques des membres des groupes visés par l'interdiction de discrimination. CDPDJ, C, Gaz métropolitain, incorporé, 2008. La discrimination systémique n'est pas un système organisé. Elle est insidieuse, car elle se cache dans un ensemble de règles, de procédures et de lois en apparence neutres, mais qui génèrent des effets d'exclusion et de traitement défavorables, portant ainsi atteinte au droit à l'égalité. Dans un rapport rendu public en 2020 en marge d'une consultation qu'elle a effectuée au sujet du profilage racial, la CDPDJ faisait la mise en garde suivante. Le fait de dresser le constat de la discrimination et du racisme systémique au Québec ne signifie pas que les personnes et la société dans son ensemble sont systématiquement racistes. Bien souvent héritées du passé, les différentes manifestations du racisme et de la discrimination systémique, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, sont le fruit de lois, de règlements, de politiques, de pratiques, de processus décisionnels, de manières de faire et de décisions. Reconnaître le caractère systémique du racisme et de la discrimination, c'est reconnaître l'existence des obstacles structurels persistants qui nuisent à la participation et à l'inclusion de tous. En ce sens, il convient de ne pas les réduire à quelques actes individuels et isolés. Pedneau et Tricky-Yamani, 2020. Quant à la notion de racisme systémique, largement galvaudée dans le débat public actuel, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse suggère les éléments de définition suivante. En somme, on comprend le racisme systémique comme un phénomène qui tire son origine de rapports de pouvoir inégalitaires historiques ayant façonné à divers degrés la société, ses institutions, normes et pratiques, ses représentations, ainsi que les relations sociales et pratiques individuelles qui y prennent place, contribuant ainsi à la reproduction dans le temps des inégalités racistes et la persistance des dénis de droit en découlant. Le racisme systémique désigne un rapport social inégalitaire, constitué de dynamiques d'infériorisation, de subordination et d'exclusion issues de l'organisation sociale qui impose aux groupes racisés, notamment aux communautés noires et aux peuples autochtones, un cumul de désavantages dans différentes sphères de leur existence. Éducation, travail, logement, santé, sécurité publique, système de justice, etc. CDPDJ 2021. Enfin, limiter la réalité de la discrimination et du racisme à une série de rapports interpersonnels ou à des écarts de comportement est une vision réductrice qui n'a plus sa raison d'être au Québec. Les concepts de discrimination systémique et de racisme systémique nous permettent d'aller plus loin dans la compréhension du phénomène et dans la recherche de solutions appropriées. C'était « Discrimination et racisme systémique » ou « L'art de tourner en rond », un texte d'opinion de Pierre Lepage, paru le 20 décembre 2022 dans Le Devoir.
Veiller comme dans le temps, un texte de Rosemée Autonne Témorin, paru le 26 février 2023 dans la presse. J'ai croisé Patrick Huard il y a quelques semaines. Depuis, une question me taraude. C'était sur le plateau de Deux hommes en or. Je le précise par respect pour le collègue Patrick Lagacé. Dans les coulisses, Patrick, l'humoriste, pas l'animateur, m'a glissé un mot au sujet des réunions de famille auxquelles il a eu droit plus jeune. Celles où tout le monde se retrouvait spontanément, où les parents jouaient aux cartes jusqu'à l'aube et où les enfants dormaient dans les manteaux, pas parce que c'était confortable, mais pour qu'on ne les oublie pas. Il m'a dit craindre que ces nuits qui s'étirent soit en voie de disparition. Ça m'a rentré dedans. Je cultive aussi de précieux souvenirs du genre. Pourtant, je tente rarement de les recréer. Quand est-ce que le réflexe de se réunir en famille a-t-il commencé à s'effriter? C'est ça, la question qui me chicote depuis fin janvier. Et pour y trouver réponse, j'ai pris le temps d'en discuter plus sérieusement avec Patrick Huard, étonnamment devenu ma muse. Le dimanche, tout le monde retentissait chez ma grand-mère, raconte l'humoriste, comédien, réalisateur et producteur. Ce n'était pas un gros appartement, mais on était une grosse gang. Ça parlait fort, ça s'obstinait, ça jouait au 500. Cette simplicité me manque. Après une brève pause, il ajoute « Bon, je présume que tout le monde rentrait dans son char en bitchant les autres, mais c'est pas grave. Il y avait un véritable esprit de réunion. » Alors, la famille est-elle toujours au cœur de nos rassemblements? Je vous donne la réponse en version courte. Oui, mais non. Dominique Morin, professeur titulaire au département de sociologie de l'Université Laval, s'intéresse à l'histoire de la société québécoise et à la sociologie de la famille. Il m'a appris qu'avec le baby-boom des années 1950, la famille québécoise s'est retrouvée dans un renversement où l'autorité des anciens ne primait plus nécessairement. On s'est senti de moins en moins obligé de participer aux activités de groupe. Parallèlement, une nouvelle image de la famille a commencé à s'imposer, le modèle de banlieue. L'accès à la propriété est venu avec une mobilité, explique Dominique Morin. En banlieue, tu n'es pas nécessairement le voisin de tes frères et sœurs. La famille s'est donc recentrée sur le couple et les enfants. Puis, comme l'expertise sur le bien de l'enfant se démocratisait, la vie s'est doucement organisée autour des besoins des petits. Le milieu des années 1980 nous a ensuite offert un creux de fécondité historique. Le clan nucléaire a rapetissé. La parenté est devenue un système de relations interpersonnelles plutôt qu'un beau grand groupe à voir régulièrement. Ajoutons à tout ça la conciliation travail-famille et on obtient une nouvelle norme. Le temps de qualité passé en famille est tourné vers les enfants, non pas vers la parenté d'autrefois. Elles existent encore, les grandes rencontres familiales, nuance Dominique Morin. Mais les maintenir demande un effort. Les gens pris dans la tension conciliation-famille deviennent des tacticiens de l'organisation. Tu veux voir tes proches? Mais comment tu arranges l'agenda de tout le monde? Tu ne feras pas une clé de bras à l'autre s'il ne peut pas venir, alors qu'avant, le sentiment d'obligation existait bel et bien. On est plus libre, donc, et plus occupé, peut-être. On a de la misère à se trouver du temps. Alors on devient avare de ce temps, m'a dit Patrick Huard. On ne s'en donne juste pas. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. C'est comme si l'oisiveté était un péché grave. Non seulement on court après notre souffle, mais on cherche aussi à bien profiter des rares pauses qu'on a, comme me l'a fait remarquer Dominique Morin. Lors de recherches, des parents nous disent que s'ils dérogent de la routine familiale, ils savent qu'ils vont payer le lendemain. C'est moins tentant de jouer aux cartes jusqu'à 2 heures du matin si tu crains que tes enfants fassent le bacon dès le réveil, c'est certain. Parlant de laisser aller, revenons aux soirées familiales de Patrick Huard. Tout le monde arrivait avec un sac de chips et on s'arrangeait avec ça. Sinon, on allait chercher des hot dogs et 2 piastres de patates. C'était tout croche. Mais c'était assumé. Je me demande si on n'est pas dans la performance aujourd'hui. On se sent-tu obligé de faire un événement de tout? Demande Patrick Huard. Quand j'ai soumis cette excellente question à Dominique Morin, Il m'a répondu que pour être à l'aise de servir un restant de spag à nos convives, il faut une véritable familiarité. Si on n'est pas proche de nos invités, c'est notre image qui entre en jeu. Moins on se voit, moins on dit « fouille dans le frigo, puis arrange-toi, je t'aime ». Maintenant, doit-on être nostalgique de cette époque où les réunions familiales toutes croches étaient la norme? Patrick Huard ne l'est pas, lui. Je ne m'ennuie pas de mes parents qui fumaient un paquet et demi dans le char avec les fenêtres fermées, du monde qui conduisait sous ou de ceux qui disaient des affaires pas d'allure. Mais je m'ennuie de l'esprit, de la vibe bon enfant. Je me demande si on n'a pas quelque chose à apprendre de cette période-là. Eh bien, Dominique Morin croit en la pertinence d'observer nos souvenirs dans une démarche anthropologique. Entretenir une mémoire claire que la vie n'a pas toujours été comme elle l'est, c'est sain quand tu veux une vie réflexive plutôt que foncer dans le train-train de la routine. Mais je n'oserais pas appeler oncle ou tante pour savoir comment mieux vivre. OK. Je vais peut-être juste les appeler pour une partie de Saint-Saëns d'abord. C'était « Veiller comme dans le temps », un texte de Rose-Aimée Autonne T. Morin, paru le 26 février 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.musevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche et Luc Mercure à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Hartmann à la présentation et au montage.